Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Tous les mois, je vous propose de partager mon échange avec Alix Georges, hypnothérapeute et thérapeute au sens large, déjà intervenue dans Réel à plusieurs reprises. Elle aide au quotidien de nombreuses personnes et j'ai eu envie d'aborder avec elle plusieurs thématiques de société qui nous concernent tous. Allez, je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette conversation thérapeutique avec Alix Georges. Salut Alix, nous revoilà pour nos conversations thérapeutiques, 8e épisode sur les pervers narcissiques. Je suis ravie d'aborder ce sujet avec toi parce qu'on entend beaucoup de choses, à tort ou à raison, fausses ou vraies, sur les pervers narcissiques. Et pour la première fois, j'ai fait appel à la communauté du podcast en sollicitant via les réseaux sociaux en amont de notre échange ma chère communauté sur d'éventuelles questions à te poser sur ce sujet qui est des pervers narcissiques, autant hommes que femmes bien entendu. Donc je suis curieuse de t'entendre, j'ai plein de questions à te poser parce que je pense qu'il est important de recadrer le débat car on entend tout un tas de choses sur les pervers narcissiques, vraies et fausses, et je compte sur toi pour établir la vérité. Voilà Alix, tu es thérapeute, hypnothérapeute, on peut te retrouver en tapant ton nom Alix Georges sur n'importe quel moteur de recherche et te consulter en one-to-one. Allez, on y va Alix. Est-ce que je peux te demander en premier lieu de définir pour de vrai ce que c'est que les pervers narcissiques ?
Bonjour Estelle, bonjour à toutes, bonjour à tous, merci pour ton invitation. Alors, le pervers narcissique, donc déjà, c'est un concept qui est très à la mode, comme tu sais.
Bah oui.
Et tu as raison de vouloir à ce qu'on l'analyse précisément et le construire, déconstruire, c'est ça. Donc déjà, simplement pour préciser que c'est un terme, le terme pervers narcissique, qui n'existe qu'en France.
Alors ça, ouais, je trouve ça fou.
Oui.
Je trouve ça fou. Je pensais que c'était très, très commun.
En fait, pervers narcissique, c'est un pléonasme. Donc, dans les autres pays... on utilise ou le terme de pervers, le pervers a un trouble narcissique, ou alors on parle des narcissiques, mais dans les narcissiques, les gens qui ont un trouble narcissique, tu n'as pas que les pervers.
C'est ça, c'est ça.
Donc on va bien
distinguer les deux.
Distinguer les deux, et je te propose, pour répondre en premier lieu à ta question, de répondre à la question de qu'est-ce que c'est qu'un pervers.
C'est ça.
Je propose qu'on n'utilise pas l'expression pervers narcissique, puisque comme je te dis, c'est une expression... qui n'a pas de grande valeur psychiatrique ou psychanalytique. On ne la trouve pas dans les manuels de psychiatrie, mais on va parler des pervers.
C'est ça. Déjà, au moins, tu as bien replacé le sujet.
Donc, dans l'acception commune du terme, un pervers, le mot qui nous vient tous à l'esprit quand on parle de pervers, c'est une personne qui aime faire du mal, qui aime nuire à autrui. Ça, c'est le côté pervers, un pervers sexuel, un pervers... le pervers, on le rapproche très souvent du psychopathe, notamment c'est dans le langage courant.
D'accord.
Ensuite, si tu vas dans un manuel de psychiatrie, donc sous le terme de pervers, dans le DSM-5, qui est le manuel de psychiatrie international, tu vas trouver une définition. Il va être défini comme une personnalité narcissique, puisqu'il appartient à la famille des narcissiques, et qui est caractérisée par deux traits de caractère. Premièrement, la surestimation par le sujet de sa valeur et de ses capacités, donc une forme de mégalomanie. Et deuxièmement, une très grande susceptibilité aux critiques et désaccords des autres, qu'il va vivre avec rage, honte et humiliation. Donc ça, c'est la définition du manuel de psychiatrie. C'est une définition, comme tu peux voir, qui n'est pas exempte de jugement de valeur. Et en revanche, tu as Paul-Claude Racamier, donc qui est un psychiatre et psychanalyste français, qui est finalement lui qui a introduit le terme de pervers narcissique dans un livre en 1986. Donc il a théorisé les pervers narcissiques en France. Et lui, sa définition, je trouve, permet de préciser les choses avec beaucoup plus de distance. Et c'est en fait lui le père de l'expression qu'on utilise encore aujourd'hui de pervers narcissique dans le langage courant. Pour lui, la perversion narcissique, c'est chez un individu c'est une organisation durable qui est caractérisée par la capacité à se mettre à l'abri de conflits internes, en particulier du deuil et de la perte, en se faisant valoir au détriment d'un objet manipulé, qui est manipulé comme un ustensile ou un faire-valoir. C'est une définition un peu compliquée.
On va reprendre.
Ouais. En fait, ce qu'il explique, il explique déjà que c'est une organisation durable, c'est une organisation interne. Donc, c'est-à-dire que c'est là où on peut commencer déjà à faire le distinguo entre les pervers, donc qui ont une organisation perverse fondamentalement en eux,
et
des comportements pervers,
c'est ça,
qu'on peut tous avoir au quotidien, je pense que ça nous concerne tous, oui, mais qui ne sont pas le résultat d'une personnalité perverse, qui sont finalement simplement un comportement qu'on va adopter
une fois de temps en temps.
Une fois de temps en temps, ou parce
en
qu'on
réaction,
a besoin de se défendre.
Voilà, en réaction à une situation.
Exactement. Donc pour lui, le pervers narcissique, déjà, c'est une organisation durable, c'est-à-dire que c'est sa structure psychique, c'est sa façon de... son
d'être,
rapport au monde. Et en fait, qui explique que c'est un mécanisme de défense. La perversité, c'est une défense. C'est un mécanisme de défense psychique qui vise à éviter une souffrance pour l'individu interne. Et pour... comment il
ouais,
fait ? Il utilise l'autre comme une chose, comme
ouais,
un instrument, comme un support qui lui permet d'extérioriser tout ce qui est considéré comme insoutenable à l'intérieur de lui.
Oula.
Tu vois ?
D'accord.
Donc en fait, c'est pour ça que le premier trait de caractère du pervers, c'est de ne pas avoir accès à l'altérité.
Il n'a pas conscience des choses. Enfin, on va y revenir, mais c'est-à-dire qu'il n'a pas conscience de l'autre.
Non.
C'est ça.
Il n'a pas accès à
l'altérité.
L'autre
n'est qu'un objet pour... vivre, enfin,
exactement,
pour que lui puisse vivre avec sa pathologie.
Exactement. Il n'y a pas d'altérité, c'est vraiment la première définition qu'on peut retenir si on doit retenir une grande idée.
L'autre n'existe pas.
Non, il n'existe pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'empathie, c'est pour ça qu'il n'y a pas de culpabilité, c'est pour ça qu'il n'y a pas de capacité à se mettre à la place d'autrui. Il n'y a que lui. C'est un monde intérieur qui est un grand monde de souffrance, en fait. Enfin, la perversité n'est qu'une défense. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est juste un bouclier, d'une certaine façon, un mécanisme de défense où c'est celui pour qui seule la loi est celle de son désir.
Ouais.
C'est la définition de Lacan.
Tout.
Exactement.
Ouais. Son désir est au-delà de tout.
Exactement. Et en fait, à l'intérieur de lui, on peut présupposer qu'il a des mouvements destructeurs qui sont très très forts. Il y a des thèses en fait qui disent que le pervers narcissique utilise cette défense pour se prémunir d'un grand vide intérieur, d'une potentielle même menace de suicide intérieur, qui vise à faire barrage en fait à cet état dépressif latent, à des conflits intérieurs qui sont non réglés, qui ont des causes extrêmement profondes, telles que le deuil originaire. C'est pour ça que Racamier, il parle du deuil,
ouais,
originaire. C'est quoi le deuil originaire ? C'est le renoncement de l'enfant à la fusion avec sa mère.
C'est ça.
En fait, la plupart du temps. Mais je ne veux pas non plus caricaturer.
Non, mais ce n'est pas un deuil. Enfin, pour revenir sur l'emploi du terme, ce n'est pas un deuil au sens propre du terme. C'est un deuil psychique.
Exactement. Mais on peut dire qu'au fond, c'est probablement un sujet suicidaire qui utilise les autres pour assouvir ses pulsions que rien ne peut arrêter si ce n'est la mort. Il a une pulsion de mort très forte, en fait, le pervers. Mmh. Autrui n'existe pas. Ses défenses sont finalement très simples. C'est l'absence de culpabilité, l'absence d'empathie, le déni de la castration, une extrême jouissance dans sa confrontation à la jouissance de l'autre et également à la souffrance de l'autre.
Le déni de la castration, c'est-à-dire ?
Le déni de la castration, on y reviendra plus tard si tu veux bien, mais c'est,
ouais,
en fait le fait que dans sa psychologie, il n'a pas été limité à un moment.
Oui, on revient à notre épisode sur l'adolescence, enfin sur l'enfance.
La castration, c'est le rôle du père. C'est le père qui est censé castrer l'enfant. La castration, c'est un terme qui est positif en psychologie.
Oui, bien sûr.
Enfin, c'est bon d'être castré parce que ça limite dans la toute-puissance. Et en,
ouais,
fait, le pervers a eu un père. Enfin, je parle pas de père ou mère. Enfin,
oui,
juste,
oui,
dans,
oui,
sa représentation du monde, il y a eu un père, mais qui ne l'a pas castré. Ça ne veut pas dire que c'est son vrai père, hein, qui ne l'a,
oui,
pas,
oui,
castré.
J'ai compris.
Mais il n'a pas été limité dans sa toute-puissance. Et c'est pour ça qu'en fait, il va tout le temps pousser plus loin le curseur et qu'il est très peu limité. Par exemple, il s'en fiche complètement de la loi. Il ne respecte pas la loi. C'est quelqu'un qui est tout le temps dans la transgression. Le vrai pervers. Hein.
Alors, Alix, quels sont finalement les grands traits de caractère des pervers ? Est-ce que tu as des exemples à nous donner, des personnages types ? Et surtout, où est-ce qu'on le retrouve dans la société ?
Oui. Alors, pour moi, l'archétype du pervers, c'est Dracula.
T'as raison.
Paul-Claude Racamier, donc le fameux psychiatre qui a théorisé le pervers narcissique en France, il explique sa définition, une autre de ses définitions, parce qu'il a écrit tout un livre dessus, c'est « le besoin et le plaisir prévalent de se faire valoir soi-même aux dépens d'autrui
ouais. ».
J'explique. Ouais. En fait, il a deux mécanismes intérieurs qui sont indissociables et antagonistes en même temps. Un, il a un besoin de plaire et un désir de plaire qui va au-delà de tout. Et Dracula, c'est le grand séducteur, par définition. Il est extrêmement séduisant, il séduit toutes les femmes, il est beau, etc. etc. Deux, d'autre part, donc l'autre mécanisme qui est antagoniste, c'est le déni de l'autre. En fait, cette fameuse stratégie où il nie l'autre pour se protéger d'une blessure intérieure. Et en fait, il a besoin, c'est pour ça que les pervers vampirisent autrui. Comme il y a un vide intérieur, il a besoin de se nourrir d'autrui, à la manière de Dracula, qui se nourrit du sang de sa victime, jusqu'à sa perte. Et il jouit de ça. C'est sa jouissance. C'est ça qui est vraiment important à comprendre. On parle vraiment des vrais pervers. Hein. Enfin, ouais. On est d'accord. Hein.
Ouais.
C'est ce que je disais, le pervers, il est très très proche du psychopathe. Le pervers, c'est un peu le frère du psychopathe, finalement.
C'est ça.
Hein. Et donc, l'autre n'existe pas. C'est ce que j'arrête pas de te dire. Enfin, il n'a pas accès à l'altérité. Donc ensuite, dans les très très grandes figures de pervers, donc t'as Dracula, t'as dans les liaisons dangereuses...
Marquis de Sade.
Oui, évidemment, t'as le Marquis de Sade, qui a d'ailleurs donné son nom au sadisme, qui est la cruauté extrême et la jouissance. Il jouit de voir Justine souffrir jusqu'à sa perte, en fait. T'as aussi dans les liaisons dangereuses Valmont, le comte de Valmont, qui... En fait, d'ailleurs, dans les liaisons dangereuses, le vrai pervers, la vraie pervers, c'est la marquise de Merteuil. C'est celle qui manigance tout derrière Valmont pour le mettre dans les bras, je ne sais pas si tu te rappelles, de la présidente de Tourvel, cette jeune et belle et naïve innocente. Femme innocente dont ils veulent courir à sa perte. Mais en fait, la vraie perverse, c'est la marquise de Merteuil, c'est elle qui organise tout derrière. Tout ça pour te dire qu'il y a aussi, aussi bien des femmes que des hommes.
Bien entendu.
Donc, les grands traits caractéristiques des pervers, c'est quoi? Le premier, comme je te disais, c'est le premier trait caractéristique, il ne considère pas l'autre comme un sujet. Il n'y a pas d'accès à l'altérité, l'autre est un objet, quelque chose de vide qui va remplir de son désir. Il ne peut pas être empathique, sauf pour lui-même. D'ailleurs, souvent, les pervers se plaignent beaucoup. Et oui, ils sont assez soupolés, en fait, la plupart du temps. Ils se plaignent, on m'a fait ça, nanana. Parce qu'en fait, ils
ont le sentiment d'être victimes.
Complètement. Exactement. Et en fait, ce qui est très dur à comprendre, c'est là où il y a un deuxième trait de caractéristique qui est important à comprendre, c'est qu'il est très charmant, le pervers. Quand on le décrit, on pourrait se dire « mais quel être horrible, je ne tomberai jamais dans ses griffes ». Sauf qu'en fait, le revers de cette absence d'empathie, il est très charmant et il est très caméléon. C'est-à-dire qu'il va te faire croire que tu es meilleur que tout, que c'est toi, que tu es extraordinaire, etc. Parce qu'en fait, c'est le mécanisme qu'il utilise, il va projeter chez l'autre ce qu'il n'a pas, donc il va être capable de survaloriser la personne en face de lui, c'est pour ça qu'il est extrêmement séduisant, qu'il te fait croire qu'il n'y a que toi, etc. Bon, tout ça pour que ça se retourne un jour contre toi. Mais ça va être son fuel, tu vois ce que je veux dire? Donc il est charmant,
pas tous quand même,
séduisant.
Non pas tous, il y en a qui quand même procèdent par la critique ou procèdent par justement l'écrasement.
Après,
d'accord.
Le premier geste
c'est
du pervers, c'est la séduction.
D'accord.
Sauf quand il est dans un conflit, notamment, on peut penser à un conflit de négociation ou d'affaires, où en fait il va utiliser l'intimidation.
C'est ça.
Tu vois, mais c'est...
Ou quand il se sentira attaqué d'office, il va tout de suite être...
Mais là, il va partir dans l'intimidation.
C'est ça.
Instantanément.
Okay.
Donc, le deuxième trait de caractère, il est extrêmement charmant. Il sait très, très bien, c'est là où il est très fort, il sait identifier le désir de l'autre. En fait, c'est un très bon psychologue. Il sait, quand il voit la personne en face de lui, ce dont elle a besoin. Il sait capter la vulnérabilité de l'autre. Son mécanisme de défense est excellent. Hein. Enfin, il est très très fort pour comprendre son entourage.
Bien sûr.
Tu vois.
Bien sûr.
Et c'est pour ça qu'on peut souvent on se trompe en fait sur lui et on peut le prendre pour quelqu'un de très empathique. Tu vois ce que je veux dire?
Je vois très bien. Je vois très bien.
Troisième trait commun, il a une très haute idée de lui-même. il est réellement convaincu, c'est pas pour de faux, enfin, il est réellement convaincu de sa suprématie physique, intellectuelle. Il a besoin d'un public permanent pour en attester. S'il n'a pas l'autre, ça marche pas pour lui.
C'est-à-dire que même s'il est, il se sent, quel que soit son physique, quel que soit son statut, il se sent surpuissant, magnifique, au-delà de tout le monde.
Et ça, il le sent pour de vrai. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais il le sent pour de vrai. Et c'est pour ça qu'il y a un autre trait de caractère.
Il n'a pas de complexe.
Et c'est ce que j'allais dire, il n'a pas de pudeur.
C'est ça.
Il n'est pas du tout pudique, le pervers. Et son mode...
Limite l'inverse, parfois.
Oui, il est complètement exhibitionniste, d'une certaine façon. Ça. Et son mode de fonctionnement qui va très bien avec ça, c'est l'action. C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'agir. C'est pour ça qu'il est très fort et qu'il est surreprésenté dans les milieux de pouvoir et des célébrités notamment. C'est qu'en fait, il n'a pas ce que la plupart des névrosés ont, c'est-à-dire cette espèce de façon de culpabiliser, de refouler, de ne pas être sûr de soi, de se sentir imposteur. Ça, il n'a pas du tout. Ouais. Il y va, il est extrêmement confiant en lui, en ses capacités. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup, comme je faisais, dans les milieux de pouvoir, parce que ça l'amène très souvent à des très grandes réalisations. Il a de l'audace, il n'a pas de scrupules, il y va. Tu vois ce que je veux dire ?
Oui, très bien.
Donc c'est pour ça en fait qu'on en entend aussi beaucoup parler, c'est qu'on les voit. On les voit beaucoup. Et dans la société d'aujourd'hui, on peut imaginer qu'on est dans une société qui valorise ça. Vas-y, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire ? Just do it. Enfin,
bien sûr. Mais du coup, attends, donc les traits de caractère, en résumé. On a dit. D'une part, pas d'altérité.
Exactement.
Donc l'autre n'existe pas.
Oui.
Par ailleurs, qu'on a dit ? Il est charmant.
Oui, séducteur, sympathique.
Séducteur, sympathique, empathique, justement, qui donne l'impression d'être empathique.
Exactement.
Et enfin, qui n'a pas de complexe.
Qui a une très haute idée de lui-même.
Voilà, et très haute idée de lui-même.
Et un autre trait, il n'est intolérant à la frustration. C'est insupportable pour lui.
C'est ça.
Il ne supporte pas. C'est ça le fameux déni de castration dont je t'ai dit qu'on y reviendrait tout
pour
à l'heure.
La limite n'existe pas, donc on ne peut pas lui interdire quoi que ce soit.
Il ne peut pas renoncer à l'idée d'être tout puissant. Il y a une grande phrase en psychologie qu'on utilise pour le décrire. Il dit « je sais bien, mais quand même ». C'est-à-dire « je sais que je ne dois pas, je sais que je dois respecter la loi, je sais, mais quand même j'y vais ». En fait, la transgression, elle est permanente dans sa tête.
Il ne le sait même pas, en fait.
Il comprend intellectuellement, mais quand même. Il y a toujours un « mais quand même ». Il fonctionne comme ça.
Ouais, c'est en fait quelqu'un qui roule sur la route en sachant que c'est limité à 130 et qui sera toujours à 150, mais il aura le sentiment de rouler à 130. Ou sinon, il s'en fout.
Non, il sait, mais pour lui, c'est OK. Très bien ce qu'il fait. Il n'est pas dans un délire.
Mais il le fait quand même.
Exactement. C'est le « mais quand même » qui est très intéressant. Et d'ailleurs, il adore les règles, il adore les contrats, les règles établies. C'est pour ça que même dans les milieux juridiques, de grands avocats, on en voit pas mal. Oui. Pourquoi il adore ça ? Parce qu'il adore en jouer. Il adore les détourner en sa faveur.
C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, oui, c'est ça. Il adore les détourner et puis montrer qu'il est plus fort que la loi, en fait.
Exactement. Il adore jouer avec la loi, il adore la contourner, il adore, c'est exactement ce que tu dis, montrer qu'il sait mieux que les autres. Et une bonne façon de le repérer, c'est qu'en fait, très souvent, il génère de l'angoisse autour de lui.
Ouais, je vois très bien. puisqu'il n'instaure pas un climat de sécurité.
Exactement. Alors, très souvent, c'est flou. On n'arrive pas forcément à comprendre ce qui nous arrive quand on est dans son entourage, sans qu'on puisse bien savoir pourquoi. Mais l'angoisse, il met mal à l'aise autour de lui. Et c'est en général un bon indicateur. On le retrouve dans toutes les strates de la société.
C'est ça qu'il faut préciser. Ouais. Oui. C'est qu'il n'y a pas que les stars à la télé ou dans le show business ou dans les grands secteurs du pouvoir. C'est qu'ils sont partout, quel que soit le milieu social, quel que soit les moyens financiers,
hommes, femmes aussi, c'est important de le préciser. Enfin, c'est pas vrai que c'est que des hommes, c'est pas vrai du tout d'ailleurs.
Puisque le pervers a la transgression comme manière d'être et que c'est sa façon d'agir, comment ça se manifeste selon toi ?
Alors ça se manifeste comme je te disais, donc son moteur c'est l'action. Donc comme il ne refoule pas, comme il ne culpabilise pas, il est tout le temps dans l'action. La clé de son efficacité c'est la rapidité. Très souvent il utilise l'effet de surprise, tu vois ce que je veux dire, qui fait partie de ses tactiques. Mais le revers de ça, c'est que très, très souvent aussi, les pervers se droguent, consomment énormément d'alcool et eux-mêmes s'autodétruisent. Ils sont tout le temps, comme je te disais, à la frontière avec cette fameuse pulsion de mort. Et d'ailleurs, quand ils chutent, en fait, puisque ça leur arrive évidemment de se faire attraper, quand ils chutent, ils se suicident, entre guillemets, plus facilement que les autres. Un exemple, Epstein, aux États-Unis, Jeffrey Epstein, quand il s'est fait attraper,
boum,
il s'est suicidé instantanément. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'il y a ce trait de caractère qui est extrêmement angoissant hein, pour, quand on observe ça de loin, qui fait qu'il est quand même tout le temps à la limite avec la mort.
Oui, la pulsion de mort est présente tout le temps. Quoi.
Tout le temps, en permanence. Et le pervers, il est à la frontière avec d'autres pathologies d'ailleurs, si on écoute bien, notamment avec la psychopathie, comme je te disais. C'est le frère du psychopathe. Il est à la frontière avec la paranoïa. Il a des attitudes très prédatrices, une altération de la vérité de temps en temps où en fait, il va perdre raison sous l'effet d'une forme de paranoïa intérieure. Et il est aussi très proche des maniaques. Quand il a ses phases de mégalomanie, il est à la limite d'un maniaque, en fait.
Ah oui. Donc, tu sais, il a le temps... Le rapport à la nourriture, pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait,
Il forcément. Est dans l'excès.
Bien sûr.
Alors après, tu as énormément de pervers aussi qui, comme ils sont dans le culte de la beauté, le culte du moi, etc., qui au contraire ont des corps extrêmement sculptés, extrêmement beaux, qui contrôlent, ils savent très très bien contrôler. Mais tu en as beaucoup qui sont dans l'excès, dans une forme de dépravation dont ils jouissent. Hein.
C'est ça.
Oui.
C'est-à-dire que ouais, le tout le temps, quand je veux, oui. Y compris avec la nourriture.
La toute-puissance, oui.
Mais qui est la victime ? J'aimerais qu'on parle maintenant de la victime, oui. Puisqu'on parle du pervers depuis le début, mais est-ce que la victime du pervers a un profil type ?
Oui et non. C'est-à-dire que si, par exemple, le pervers est un enfant, enfin l'enfant de son parent...
Si le parent
est pervers vis-à-vis de son enfant,
est une victime.
C'est pas une victime type, c'est son enfant, il n'y peut rien.
On y reviendra d'ailleurs sur ce sujet. Ouais.
Exactement. En revanche, le pervers va toujours, dans sa victime, chercher un adversaire de taille. C'est-à-dire chercher quelqu'un qui pourra le freiner, tout en doutant que cet adversaire existe. Comme le pervers, il est quand même vraiment tout le temps dans un combat à vouloir montrer sa toute-puissance, il ne va pas s'attaquer à faible.
Bah, bien sûr.
C'est pour ça d'ailleurs que les victimes des pervers narcissiques, c'est ça, il y a un paradoxe qui est
général,
très intéressant.
Ils sont vraiment des gens...
Solide, fort, et parce que le défi que se donne le pervers, c'est d'anéantir en fait cette solidité. Il s'en fiche un peu de la personne un peu faible, c'est pas ça qui va l'intéresser. Il peut choisir une victime fragile, une victime vulnérable au sens de l'imaginaire collectif, la veuve, l'orphelin, l'enfant, tu vois ce que je veux dire, mais pas faible ou attaquable facilement. C'est plutôt une victime qui va susciter une empathie très forte chez l'autre. Mmh. Tu vois ce que je veux dire ? Il va souvent choisir des victimes qui sont intelligentes. Je parle des adultes. Hein. Les enfants, je te dis, c'est encore un peu différent. Hein. C'est pas exactement...
au sens où la personne a une capacité de remise en question, à se dire, bon, peut-être qu'il... Enfin, à trouver des raisons.
Il va... Comme sa jouissance, c'est de créer une espèce d'angoisse chez l'autre. Je t'explique comment ça marche. En fait, Paul-Claude Racamier, donc le fameux psychiatre psychanalyste qui a théorisé ce concept, dit qu'il va utiliser un détour. Il va procéder par détournement d'intelligence ou décervelage.
Décervelage, c'est très important. C'est hyper, hyper intéressant parce que ça veut dire qu'en gros, il vide le cerveau de l'autre.
Oui, il va chercher à neutraliser, à faire perdre la lucidité et la réactivité intellectuelle de l'autre, avec des conséquences qui sont hyper graves sur le psychisme de la victime, évidemment, puisque l'unité du moi chez l'autre va se fissurer. Et comment il va faire ? En fait, il va utiliser donc une victime intelligente, forte, solide, avec des valeurs, c'est ça qu'il va chercher. Il va chercher des valeurs morales qui sont fortes, et il va souvent chercher quelqu'un qui a une forme de sensibilité, de grande sensibilité et parfois de dépendance affective, donc une propension à vouloir être avec autrui, à culpabiliser, etc. Et à partir de là, en fait, il va injecter, ça s'appelle de la pensée poison, c'est théorisé comme ça, tout le temps dans leur système de pensée, il va
quotidiennement
avoir des discours contradictoires. On appelle ça le double bind. Ouais. Il va dire noir, il va dire blanc, il va dire mais je t'avais dit noir, alors que c'est blanc, tu vois ce que je veux dire. Et la victime, comme c'est quelqu'un qui a un système de pensée élaboré, fort, elle va chercher à mettre du sens sur ce qui n'a pas de sens.
Voilà, à faire des liens avec ce qui n'en a pas.
Donc, elle va tout le temps réajuster son système de pensée pour le rendre cohérent. Et cette réorganisation psychique où tout le temps elle va faire l'effort d'ajuster son système de pensée va provoquer une dissonance cognitive dans son cerveau. Et la personne, en fait, là où il va agir, c'est qu'il va agir sur le conflit de loyauté. Comme il va y avoir une dissonance cognitive permanente entre ce que le manipulateur dit et ce qu'il fait, c'est là que l'emprise va s'installer parce que la personne va être dans un conflit de loyauté en disant « mais tu m'avais dit ça, je ne comprends pas ». Et c'est là où l'emprise va s'instaurer, c'est au moment où le conflit de loyauté va apparaître. Si quelqu'un dit « tu m'avais dit noir, je ne comprends pas » alors que c'est blanc et décide de partir, le pervers n'a plus d'emprise. Là où il a de l'emprise, c'est si la personne se met à douter.
Exactement.
Tu comprends
donc
ce que
les
je
capacités
veux dire
pour douter.
Exactement.
Ou à pas envoyer sur les roses. C'est-à-dire qu'il y a une volonté, qu'on l'accepte ou pas, enfin, que ce soit dur ou pas, à dire, c'est qu'à un moment, on rentre dans le mécanisme consciemment.
Exact. Alors, consciemment ou inconsciemment ?
Inconsciemment, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose qui fait qu'on y va.
C'est pour ça que très souvent, les victimes adultes de pervers narcissiques sont des enfants de parents pervers narcissiques. Quand t'es enfant...
Parce que c'est leur mécanisme de fonctionnement.
Quand t'es enfant...
C'est leur mécanisme connu et reconnu.
Quand t'as eu un parent pervers narcissique, tu t'as juste grandi dans le chaos. Tu ne comprends pas ce qui t'est arrivé. Tu vois ce que je veux dire ? Puisque ton parent t'a tout le temps envoyé des messages contradictoires. Donc, ton cerveau a été lui-même extrêmement...
habitué, formaté.
Exactement. Donc,
à ce type de chaos.
Enfin, et c'est pour ça que très souvent, les enfants de pervers narcissiques ou deviennent eux-mêmes pervers, ou deviennent eux-mêmes victimes de pervers narcissiques, de pervers, parce qu'en fait, ils vont tout le temps rejouer quelque chose de leur enfance en espérant le réparer. Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais.
Tout le temps en espérant. Et en fait, c'est ce qu'on dit en psychologie, c'est que le bourreau choisit autant sa victime que la victime choisit son bourreau.
Bien sûr.
Donc, c'est un peu dur à entendre, hein, je l'accepte totalement. C'est pas toujours vrai. Je voudrais pas non plus tout caricaturer. Mais c'est souvent ce qui se passe.
Et après, quand on dit elle choisit son bourreau,
inconsciemment,
c'est pas un choix, c'est pas un choix conscient. C'est-à-dire que on va dire que c'est écrit.
C'est tout le travail thérapeutique de se défaire de ça, parce qu'en fait, ce qu'il faut pas oublier, c'est à quel point le pervers est à la mode, est aimé, est admiré dans la société d'aujourd'hui. Ça, s'il y a bien un truc qu'on peut essayer de retenir, c'est justement sortir de cette espèce d'admiration. Aujourd'hui, tout le monde est fasciné par, les séries sur les tueurs en série. La société aime ça. Et d'une certaine façon...
Après, il y a peut-être aimer avoir peur, aimer...
Chez les victimes de pervers narcissiques, ce qu'on peut constater aussi de temps en temps, c'est qu'elles ont l'espoir que ça ne leur arrive pas à eux. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que souvent cet espoir.
Voilà, le fait d'écouter des histoires complètement absurdes ou complètement atroces te dit finalement je suis bien là où je suis. Quoi. C'est ça ?
Non, c'est pas exactement ça l'idée. C'est de dire souvent la victime d'un pervers narcissique va croire au prince charmant ou à la princesse charmante, va adhérer à ça et va avoir le fantasme qu'elle ne sera pas concernée par la cruauté, le sadisme, l'emprise dans lequel on va l'enfermer.
C'est intéressant.
Ça, c'est des choses qu'on voit souvent. C'est avec moi, c'est différent. Ce sera. Et tout le travail intellectuel, thérapeutique, conscient, c'est de sortir de ça, de comprendre qu'en fait, face à un pervers, la meilleure stratégie, évidemment, de fuir, ou de se prémunir au maximum, et de surtout pas insister. Parce que si tu insistes, tu remets une pièce au compteur.
C'est ça.
Il ne cherche que ça. Mais ça, on est vraiment dans le phénomène de l'emprise. C'est extrêmement, extrêmement difficile de sortir de l'emprise.
Bien sûr. Surtout quand tu es barricadé avec quand tu es un enfant avec cette personne.
Quand tu n'as connu que ça, c'est vrai. Tu as besoin d'être accompagné pour sortir de ça parce que tu n'as connu que ça.
Ouais. Donc toi-même, tu ne peux pas t'en sortir tout seul.
Difficilement. Tu peux, évidemment, mais c'est difficile.
Alix, maintenant, est-ce qu'on peut aborder les causes de la perversion. C'est-à-dire que tout à l'heure, on l'a rapidement dit, mais la perversion, c'est un mécanisme de défense d'une identité qui est fragile et vraisemblablement, vacillante. Mais les causes profondes de la perversion ?
Alors, en psychologie, on pense que dans l'enfance du pervers, l'enfant a été laissé... L'enfant pervers, futur pervers.
Ouais.
Je voudrais surtout pas laisser croire qu'il y a des enfants pervers.
Oui, oui.
Oui. L'enfant pervers, l'enfant futur pervers a été laissé dans une totale déréliction. Il a été seul, laissé...
Déréliction ?
Dans une espèce de chaos, en fait. D'accord. Il a été laissé seul avec des messages énigmatiques, intraduisibles d'une certaine façon, et des pulsions qui n'ont pas été contrôlées. Ouais. En fait, l'enfance du pervers, c'est ça. Donc, très souvent, on voit deux typologies d'enfance, dans l'enfance du futur pervers, ou bien une carence éducative très forte. C'est un enfant qui a été privé d'altérité, qui ne peut pas se décentrer de lui pour accéder à l'altérité et au monde, qui a été isolé, qui a été abandonné affectivement, dont il y a une carence d'attachement, une carence d'amour, en fait. L'amour, c'est ce qui te permet de visiter le monde, c'est ce qui te permet de visiter l'altérité. Mmh. Lui n'a pas eu ça. Mmh. Ou ça, ou bien il a grandi dans un monde où il n'y a qu'une seule vérité, il a été extrêmement enfermé dans un espèce de fantasme de toute-puissance, et je renvoie au podcast sur la psychologie de l'enfant, où en fait, on lui a répété sans cesse « tu es le meilleur, il n'y a que toi », etc., etc. Il a été d'une certaine façon trop aimé, si on peut dire, même si je ne pense pas qu'on puisse être trop aimé, mais il a été trop survalorisé dans la toute-puissance, et ça, ça peut créer de la perversité. Je ne dis pas que ça en crée à tout prix, je dis que ça peut en créer. Et en fait, au départ, pour expliquer comment ça marche...
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Selon Freud, l'enfant, en fait, passe par deux stades de narcissisme pour se construire.
Oui.
Il y a le narcissisme primaire, où en fait, l'enfant n'est que centré sur lui et ne fait pas de différence entre lui et les autres. Je renvoie au podcast sur la psychologie de l'enfant.
Ouais, ouais.
C'est normal de passer par ce stade. Et dans ce stade, en fait, l'esprit est très clivé. C'est où on est très fort, où on n'est pas fort, où on est survalorisé, où on est dévalorisé dans sa tête aux yeux d'autrui.
Ouais.
Hein ? Et l'investissement du soi est très incertain. Et à un moment, petit à petit, va s'instaurer ce qu'on appelle le narcissisme secondaire, où en fait, on prend conscience de l'extérieur, où notre identification dans le monde devient beaucoup plus stable, où l'investissement de soi est beaucoup plus solide, et on va pouvoir enrichir sa personnalité. Ça s'appelle le narcissisme secondaire. C'est quand tu as accès à l'altérité. Le pervers n'a pas accès à ce stade. C'est pour ça que je te parle de vide intérieur.
Ouais.
Et c'est pour ça qu'en fait, il utilise plus tard deux mécanismes de psychologie qui sont la projection et l'introjection. La projection, c'est qu'en fait, il va projeter chez l'autre ce qu'il ne supporte pas chez lui. C'est pour ça qu'il va insulter sa victime. Ce qu'il ne supporte pas chez lui, il va dire à l'autre que c'est ce qu'il est. C'est pour ça qu'il insulte. C'est pour ça qu'il dévalorise sans cesse l'autre. L'introjection, c'est pour ça que souvent, il choisit des victimes solides et intelligentes. Il va prendre d'autrui ce qu'il aime
Dracula.
Chez autrui pour se l'approprier.
Ouais. Dracula, enfin, je trouve que l'image de Dracula est bonne.
Et chez lui, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas d'altérité. C'est impossible, ça ne marche pas. Il ne faut pas chercher à essayer, ça ne marche pas.
Oui, ce qui fait que parfois, il pète des plombs si tu aimais ne serait-ce qu'un... même pas un début de commencement de critique ou de réaction par rapport à un comportement, et ça les fait complètement craquer.
Complètement. Et d'ailleurs, si on va dans ce que tu es en train de dire...
Ou même quand tu parles. Enfin, il y a même des gens qui ne supportent pas que l'autre réponde. C'est-à-dire, ne serait-ce que quand il va y avoir une situation complètement ubuesque et que la personne va juste répondre en disant « mais non, en fait
».
Alors là, c'est le début des ouragans de colère, de crise, etc.
En fait, c'est tout à fait juste. Le pervers est perpétuellement insatisfait. C'est ce que tu es en train de dire. Il n'est jamais heureux. En fait, il n'a pas accès au bonheur. Il n'a pas accès aux petites joies du quotidien, au bonheur du quotidien. C'est quelqu'un qui est en souffrance, qui est dans l'envie, la jalousie, l'incapacité à écouter véritablement autrui. Il n'y a que lui. C'est un monde très, très fermé, le monde du pervers.
Eh ben, dis donc.
Oui. C'est pas très gay, oui.
Non. Donc, on l'a rapidement abordé quand même. Donc, on peut quand même rappeler qu'il y a l'enfance du pervers, qu'une éducation sans limite peut quand même conduire construction, à la fabrication d'un pervers narcissique.
Oui, oui. La perversion, en fait, elle est nourrie par les cadres qui s'effondrent.
Ouais.
Tu,
c'est ça.
Tu vois.
C'est ça. C'est-à-dire que moins il y a de cadres et plus il y a de potentialité à devenir soit pervers, soit pervers narcissique, soit narcissique. Mais oui. Au final, le cadre, les limites, et donc on peut le rappeler, effectivement, renvoyé à notre épisode commun, mais à nos deux épisodes communs sur les enfants, la psychologie de l'enfant et la psychologie de l'adolescent. Mais on y revient à ce besoin de limite.
Oui.
Et c'est en ça que je trouve que là, on va y venir maintenant. Mais on est dans une société, finalement, où les limites ne sont plus à la mode.
On Alors, peut ça dire dépend. Comme ça ça dépend. Elles ne sont plus du tout à la mode. Et en même temps, elles sont très à la mode parce qu'il y a tout un retour aujourd'hui aussi vers une éducation beaucoup plus stricte, vers... tu as beaucoup plus, j'en sais rien, d'école où il faut porter l'uniforme. Mmh. Enfin, on peut dire que notre société est quand même très clivée, en fait, maintenant.
C'est ça. C'est ça.
Entre un excès quasiment d'autorité.
Mais il y a une opposition entre deux camps.
Exactement. Ouais, c'est un vrai. Clivage.
C'est un vrai clivage, ouais. Oui. Tu as raison. Et qui se ressent autant... dans la société d'adultes, entre guillemets, que dans oui. la société des enfants ou de l'éducation, etc.
Exactement.
Alors du coup, pourquoi aujourd'hui faisons-nous appel si souvent et parfois de manière complètement abusive au terme de pervers narcissique ?
Oui, c'est une très très bonne question. En fait, aujourd'hui, tous les ex de tout le monde sont pervers narcissiques. Voilà, ça, c'est... Un collègue avec qui on ne s'entend pas bien, il est pervers narcissique. Le ça. Voisin qui a fait trop de bruit, il est pervers narcissique, etc., etc. Pourquoi le narcissisme est-il devenu au XXe siècle la pathologie dominante ouais. qui en fait détrônait les névroses classiques de l'époque de Freud? À l'époque de Freud, on consultait parce qu'on était névrosé. Freud, il avait beaucoup théorisé sur les névroses, bien les sûr. Grandes hystériques, etc. Aujourd'hui, justement, comme je disais, d'un point de vue psychiatrique et psychanalytique, le terme de pervers narcissique nécessite une très très grande prudence. Hein.
Bien sûr.
Reprécisons qu'il faut bien établir une différence entre la vraie perversion qu'on a décrite et les comportements pervers. Ouais. En fait, les comportements pervers, on les utilise tous au quotidien dans notre société d'aujourd'hui. Ce sont des actes, des conduites chez des individus qui sont considérés comme plus stables d'une certaine façon et qu'on fait sous l'emprise de la jalousie, de la haine, de l'exaltation ou de temps en temps, ça nous arrive à tous de commettre des actes...
Ça me fait penser au ghosting, tu vois ce que c'est ?
Oui, bien sûr.
Ça, c'est un comportement pervers ou pas ? Le fait de ne pas répondre, tu vois, tu te souviens de la mode du ghosting où en gros...
Oui.
Juste, tu disparais quand oui. tu as une relation, un début de commencement d'histoire, bah, etc. Et puis plutôt que de rentrer dans une explication, plutôt que, boum, du jour au lendemain, silence radio.
Oui, c'est un comportement pervers dans le sens où tu ne tiens pas compte du besoin d'autrui,
c'est ça.
D'avoir une réponse, d'avoir une explication, d'exister, de et vivre.
Oui, mais tu vois, le ghosting, c'était marrant. C'est marrant parce qu'on en parlait il n'y a pas si longtemps que ça. Et je trouve qu'il y a eu depuis des dérives terribles. C'est-à-dire que ça a commencé par ça. Enfin, tu vois, ce côté, je ne m'explique pas sur une situation, je ne rends pas compte à l'autre, je ne dis pas la vérité, j'élimine l'autre.
Complètement.
C'est quand même un truc...
Mais c'est un comportement pervers.
Oui.
Donc, le ghosting va être utilisé par des pervers,
mais pas par
des pervers.
Voilà, ou par des gars qui se disent, bon, c'est plus pratique, ou par des nanas qui se disent que c'est plus simple.
C'est ça.
Vrai. Exactement. Je t'ai coupé, excuse-moi, mais parce que ça m'a interpellée.
Non, mais ce que tu dis est très vrai. Justement, dans le fil de ce que tu dis, les authentiques pervers, il y en a, mais il n'y en a pas tant que ce qu'on dit. Il en existe dans le monde, il y en a beaucoup, mais il y en a pas autant que ce qu'on dit.
C'est ça.
En revanche, ce qu'il y a de plus en plus, et ça, tous les psychiatres et les psychanalystes et les psychologues le voient, ce sont des narcissiques. Mmh. C'est Marie-France Irigoyen, celle qui avait justement théorisé sur l'emprise, le harcèlement moral, c'est elle qui a vraiment écrit là-dessus. Mmh. Là, elle vient de sortir un livre, il y a 3-4 ans, où elle parle de l'émergence du narcissisme. Mmh. C'est là où on peut parler justement du narcissisme aujourd'hui. Les narcisses, donc Narcisse, c'est Ovide qui l'a décrit dans Les Métamorphoses. Mmh. C'est cet homme qui a été affligé d'une malédiction, en fait. Il ne doit pas se regarder. Et à partir du moment où il est poussé par la soif et où il se voit, il voit son reflet dans l'eau, il en tombe littéralement totalement amoureux, tellement amoureux qu'il ne peut pas se détacher de ce regard sur lui-même et qu'il finit par en mourir. Ça, c'est Narcisse, originellement. Aujourd'hui, on assiste énormément à une émergence du narcissisme que nous, on confond beaucoup avec le pervers narcissique.
Voilà.
Hein, tu vois ?
C'est ça qu'il faut rappeler.
Exactement. Alors, pourquoi est-ce qu'on assiste à cette émergence ? Il y a un sociologue américain, Christopher Lash, qui a parlé dès 1979 de la culture du narcissisme. Mmh. En fait, en observant la société américaine, ça date, hein, il a décrit l'individu narcissique comme, je cite, superficiellement détendu et tolérant, mais en fait anxieux, qui vit dans le présent et qui a perdu, ça je trouve que c'est une notion très intéressante, la notion d'appartenir à une succession de générations qui sont nées dans le passé et qui s'étendent vers le futur.
C'est la racine de l'individualité.
Exactement, ouais. Exactement. En fait, il parle d'un paternalisme sans père, c'est toute cette société
d'individualisme
qu'on décrit énormément aujourd'hui, qui déresponsabilise les parents, qui déresponsabilise les profs et qui abandonne les individus à eux-mêmes. Donc tout est permis, mon désir est plus fort que ton désir, je fais ce que je veux, etc.
Il n'y a plus le désir de faire société.
Et d'appartenir.
Et d'appartenance à une société.
À une société, à une famille, à une lignée, à une culture, à beaucoup de choses en fait.
Oui, voilà, ce qui est très étrange, excuse-moi, c'est encore une fois c'est entre parenthèses, mais du coup, ce qui peut expliquer que parfois certains aient ce besoin de communautarisme.
Complètement.
En réaction.
Complètement.
Donc on voit.
D'où l'émergence des communautarismes.
Voilà.
Oui.
Beaucoup poussés à leur extrême, enfin, on le voit, il y a des gens qui aiment le clan, qui veulent le clan pour se rassurer.
Complètement. Donc, c'est une réponse à cette angoisse, en fait.
C'est ça, exactement.
Oui. Ouais. En 1983, en France, tu as eu le sociologue français, donc Gilles Lipovetsky, qui a repris ce diagnostic, ça date, ça a quand même plus de 30 ans, dans l'ère du vide, où il dit « avoir des relations inter-individuelles sans attachement profond, ne pas se sentir vulnérable, développer son indépendance affective, vivre seul », tel serait le repère du narcissisme moderne, en fait. Avec cette espèce de flottement, où on est pas du tout fixé, on n'a pas de repères.
C'est ça, ouais.
Hein ? T'as ensuite le philosophe français Dany Robert Dufour, qui lui, alors c'est exactement la même idée, mais qui explique que pour lui, c'est le néolibéralisme qui, en fait, qui a détruit certains des fondements de la société et qui a donc affranchi les individus de leurs valeurs morales limitatrices. La morale est limitatrice dans le sens positif du terme. Et donc, on est dans une société qui valorise l'égoïsme contre l'altruisme, qui valorise le profit contre l'honnêteté et qui favorise l'individualisme contre la vie collective.
Ouais.
Et ça mène à ce que...
Les droits et pas les devoirs, quoi.
Est-ce qu'il y a une psychologue française, Elisabeth Rudinesco, qui est très connue, qui a validé également, qui dit qu'en fait, on vit dans une société dépressive.
Mais c'est tellement vrai.
Mais c'est tout à fait vrai.
C'est tellement vrai.
Et le narcissisme, qu'en fait, quand on parle aujourd'hui de pervers narcissique, très très souvent on parle de narcissisme. C'est ça que j'essaie d'expliquer idée. C'est l'association entre cet individualisme extrêmement égoïste, mortifère, et l'infantilisme. Je reviens sur l'adolescence dont on a parlé sur le podcast.
Faire rester des enfants toute sa vie, quoi.
Exactement, cette espèce de fantasme.
Avec l'envie de, à un moment, être sauvé ou d'avoir... que quelqu'un d'autre doit prendre en main mon destin, etc.
Et c'est pour ça qu'on est dans une société qui se victimise de plus en plus.
Bien sûr.
Tout est la faute d'autrui, où il faut toujours tout réparer.
C'est ça.
Parce qu'on est dans ce fantasme d'être... En fait, on est dans une société sans père, comme disais. Donc, qui est là pour nous sauver ? Personne. Donc, on a besoin que la société valide ça.
C'est ça.
Tu vois ce que je veux dire ?
Incroyable.
Ce qui implique un total laisser-aller pulsionnel, qui est typiquement qualifié de perversion narcissique, mais qui n'est pas une perversion, qui est du narcissisme.
Qui est la conséquence d'un comportement global.
Exactement.
À l'échelle...
Exactement.
Ouais.
Évidemment, cerise sur le gâteau, accentué par les réseaux sociaux, l'exhibition permanente, l'omniprésence de l'image, la mondialisation, toutes ces promesses de progrès, cette énorme digitalisation sont doublé de ce revers très sombre, en fait, ça mène aussi à une société, c'est le cas, de plus en plus addict, notamment.
Bien sûr.
Je reviens au podcast sur l'addiction. Et de plus en plus dans le refus de l'autre au sens de Lévinas, accéder à l'altérité, au visage de l'autre, au récit de l'autre, c'est quelque chose qu'on est quand même en train de perdre.
Et on va vers une société où, finalement, on peut tomber amoureux de robots, on va pouvoir être... attiré par des images et pas par la réalité, que la réalité va nous sembler être un petit peu sans saveur par rapport à du digital ou à des aventures virtuelles. Enfin,
oui,
en gros, c'est ça qui peut contribuer aussi à un détachement de la réalité.
Exactement. Mmh.
On va essayer. Mais tout va bien. mais alors, est-ce qu'on peut dire que finalement, on a une sorte de recours systématique à cette notion à la même échelle que on peut avoir recours au burn-out. Enfin, moi, j'aime bien ce rapprochement, si tu veux, entre le recours permanent à la notion de pervers narcissique parallèle à ce recours permanent à la notion de burn-out.
Oui.
Parce que finalement, les deux ont émergé quasi en même temps.
Aujourd'hui,
avec
on veut
la même intensité.
En fait, on veut tellement tout étiqueter. On est tellement dans l'angoisse de vouloir mettre une étiquette, de vouloir dire « moi, je suis victime de burn-out, moi, je suis victime de pervers narcissique », qu'on utilise évidemment tous ces termes.
Par manque de repères, donc, on revient
par
à ça.
Par manque de repères, par manque de langage, par manque de nuances, par manque de finesse, et parce que c'est tellement plus facile.
Bien sûr.
Intellectuellement. Mais en fait, ce n'est pas parce que c'est plus facile que ça ne fait pas souffrir.
Ouais.
Plus ta pensée est simpliste, plus tu souffres.
Bien sûr.
Et c'est ce que moi, dans mon métier, je constate. C'est que plus on met de la nuance, plus on met du sens, plus on met de la complexité.
Mais
plus
d'où les problèmes qu'on peut avoir quand les enfants n'apprennent plus la syntaxe, le vocabulaire. C'est-à-dire qu'en fait, on l'a toujours dit, quand tu n'arrives pas à mettre des mots sur ce que tu ressens, tu en viens à la violence.
Oui.
Donc c'est ça aussi qui peut rendre fou au sens propre du terme. C'est-à-dire quand on te met dans une catégorie en te disant bah, les critères c'est ça, 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 et puis que tu te rends compte que finalement bah, tu as peut-être un critère mais pas tous, ou tu en as beaucoup plus, bah, on ne trouve pas de solution à tes sujets.
Exactement.
Et qu'à un moment tu ne peux pas non plus dire à quelqu'un bah, tu fais un burn-out, va acheter un livre de développement personnel puis ça va aller mieux.
Bah, oui.
Donc on ne peut pas couper à une thérapie, on ne peut pas couper à des thérapies qui ne sont pas forcément... rapide au sens que la psychologie positive ne répond pas à tous les besoins non plus, et que écouter et lire, je prêche pas pour ma paroisse, mais les podcasts
mais si.
Ne peuvent pas non plus guérir les gens. Enfin, tu vois ce que je veux dire,
ça peut aider,
mais en tout cas, c'était le but du mien. Mais il faut que ça mette quelqu'un sur la voie pour aller se soigner au sens propre du terme.
Oui, voilà. Effectivement. Quand on est, par exemple, pour revenir
sur rapide.
Quand on est, par exemple, toujours dans une répétition, qu'on est toujours face à des hommes pervers, quand on est une femme,
ou face
à des femmes perverses, quand on est un homme. Pourquoi ? C'est-à-dire à quel point, soi-même, inconsciemment, on contribue à ça. Pourquoi ça nous arrive aussi de qualifier les autres sans cesse de pervers narcissiques, alors que ce n'est pas du tout le cas ? Dans quelle mesure, nous-mêmes, on ne contribue pas à rendre l'autre pervers, à rendre l'autre narcissique, tu vois ce que je veux dire ?
Ah oui, non, mais de toute façon, la place de victime est toujours plus facile que celle du bourreau.
Exactement.
Enfin, c'est triste à dire, mais c'est vrai qu'être victime te permet aussi d'échapper à tes responsabilités, te permet de dire, bah, j'ai le droit du coup de partir en vrille, entre guillemets, et de ne plus rien faire pour ma cause ou pour me sauver, ou voilà.
Oui.
Donc c'est vrai que ça favorise beaucoup ça. Et en plus, parfois même, ça justifie un comportement qui va vers l'individualisme. C'est-à-dire qu'en fait, on a ce sentiment aussi parfois quand on dit bah, « c'est un pervers narcissique, il m'a fait ça, il a fait ci, donc je plaque tout et je vis pour ma pomme.
»
Et ça, ça peut être un peu dangereux aussi quand il y a des enfants dans l'équation, ou quand il y a un job dans l'équation aussi. Parce qu'on va y venir. Mais lorsque j'ai posé la question à la communauté, c'est vrai que revenait souvent le sujet du lien familial ou du lien... dont on ne peut pas se défaire. C'est-à-dire qu'en fait, je suis contractuellement lié hiérarchiquement à telle personne, donc ça s'appelle un contrat de travail, donc je suis relié à un pervers narcissique. Mon parent, père ou mère, est un pervers narcissique. Que devons-nous faire, en fait, face à ça, si tu veux ? C'est pratico-pratique, mais vraiment, j'ai eu beaucoup de questions là-dessus sur ça. C'est-à-dire que quand on est dans une situation où on ne peut pas s'en sortir.
Oui. Alors, quand on est face au vrai pervers, on revient
sur
le vrai pervers.
Vrai de vrai.
On a clôturé sur le narcissisme qui est un peu différent. Mais quand on est sur le vrai pervers, il n'y a pas grand-chose à faire face à un pervers, puisque comme je te dis, comme l'autre n'existe pas.
C'est ça ?
Ben oui, finalement. C'est pour ça, c'est ce que je faisais en début de podcast. Pour moi, les vraies victimes des pervers narcissiques sont les enfants. C'est-à-dire avoir un parent pervers narcissique.
Tu n'as pas la possibilité de se défendre.
Tu n'as pas la possibilité de te défendre, d'en sortir.
D'avoir conscience de ce qui t'arrive.
Très souvent, d'ailleurs, les parents pervers narcissiques n'emmènent pas leurs enfants consulter parce que ils ne veulent surtout pas qu'ils aillent mieux. Enfin, c'est tragique, ce que je suis en train de te dire.
Ils se rendent même pas compte qu'ils veulent pas qu'ils aillent mieux, en fait.
Ils sont tellement dans la toute puissance que ils consultent pas les pervers. Les pervers ne consultent pas. Ça, c'est important. Face à un vrai pervers, ça c'est d'ailleurs Daniel Zaguri, le psychiatre Tu sais, qui fait toutes les expertises psychiatriques des grands psychopathes.
Bien, je vois.
Tu vois qui c'est, très bien. Cet homme.
Il a été médiatisé.
Oui, oui, il est très connu et très, très intéressant. C'est lui qui dit, on ne peut rien faire. Il n'y a rien, on ne peut pas les changer. Il n'y a rien à en faire, si ce n'est de s'en protéger au maximum. Parce qu'il n'y a jamais, et je souligne le mot jamais, d'issue positive dans une relation avec un vrai pervers. Il n'y a pas d'issue positive. Non, non, non. Donc, quand tu es adulte, je fais vraiment la différence enfant-adulte. Hein. Quand tu es adulte, ce que tu peux faire, c'est refuser de participer, entre guillemets, au jeu psychologique dans lequel le pervers veut te faire jouer. En fait, le pervers t'invite...
Est-ce que tu peux vivre décemment comme ça ?
Comment ?
Est-ce que tu peux vivre décemment comme ça ?
Ah bah, je pense que tu vis beaucoup mieux quand tu es loin du pervers.
Non, mais ce que je veux te dire, c'est est-ce que tu peux vivre avec cette attitude tout en restant physiquement ?
Oui,
tu bien sûr. Mais en gros,
s'il n'y a pas d'attache, s'il n'y a pas de prise, le pervers, il va pas jouer avec toi.
Donc tu peux vivre avec quelqu'un qui est pervers,
oui,
correctement et décemment, en ayant conscience que c'est un pervers.
Alors, dans la vie de couple, non.
Ouais.
Dans la vie de professionnelle, tu parlais de la vie professionnelle, totalement.
Voilà.
Totalement.
Donc, il faut bien distinguer les deux. C'est-à-dire que autant d'un point de vue professionnel, on peut mettre une sorte de distance d'analyse sur la situation en essayant que ça ne nous mange pas. Mais c'est en ça où on en vient au harcèlement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un vrai sujet qui aussi est ressorti avec le burn-out, etc. Parce que, pareil, les sujets de harcèlement moral, etc., il y en a de plus en plus. Les tribunaux de prud'hommes regorgent de demandes, de préjudices moraux pour harcèlement de je ne sais pas. Bref. Il y a des situations, si tu veux, qui ne sont pas des situations de harcèlement et qui le sont devenues.
C'est vrai.
Enfin,
mais ce qui est aussi vrai, c'est je pense quand même qu'il y a de plus en plus de harceleurs. Je le pense sincèrement parce que comme il y a cette espèce de société dans laquelle on vit, où on peut tout tenter, on respecte beaucoup moins autrui, etc., je pense que dans le monde de l'entreprise, il y a de plus en plus de gens qui abusent, objectivement. Je le pense vraiment. Dans le monde professionnel, c'est ce qui protège, c'est la force du contrat. Tu vois ce que je veux dire ?
Bien sûr.
Tu es lié par un contrat.
Bien sûr.
Donc, ça te protège d'une certaine façon.
Bien sûr, il y a un cadre juridique.
Face à un pervers, toujours utiliser le sens le plus littéral possible et la loi. C'est-à-dire, si tu es dans un monde professionnel, si tu es victime d'un pervers, déjà, ce n'est pas forcément de ta faute. Enfin, ce n'est pas de ta faute. Tu vois ce que je veux dire ? C'est très important. Enfin, les victimes ne font pas exprès consciemment d'être victime. Je le précise bien pour les gens qui sont victimes de pervers. Donc, ce n'est pas de ta faute. Mais en revanche, ce qu'on peut faire, c'est utiliser la force du contrat. Aller en parler au DRH. En fait, avec un pervers, il faut toujours rester le plus littéral possible. Ne jamais, jamais rentrer dans son jeu. Parce qu'il sera toujours plus fort à ce jeu. Comme je te disais, c'est son fuel. Il veut t'emmener dans son jeu psychologique. Il veut te faire participer à ça.
Il faut faire rentrer une tierce personne au sens propre du terme, enfin, imagé ou au sens figuré du terme. C'est-à-dire que d'introduire dans cette espèce de jeu pervers, enfin de jeu pas pervers, mais
d'introduire
c'est un jeu,
quelqu'un.
Mais d'introduire quelqu'un qui peut être une DRH, qui peut être un supérieur hiérarchique.
Oui.
Pour
un médiateur.
Un médiateur.
Oui, médiateur sert à ça. Hein.
Et qui peut être un avocat aussi.
Oui.
Un psy, bon, oui, mais ça, c'est en parallèle. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la vie professionnelle...
Oui.
Non, mais c'est pas dans toutes les situations, au sens où toutes les configurations ne permettent pas d'avoir de DRH, ne permettent pas d'avoir d'autres échelons hiérarchiques. Et puis, la peur aussi, tu vois, avoir de travail, d'être viré, d'être
Et comme je te disais, le pervers fait peur. Donc, en fait, très souvent, on n'ose pas. On se dit non, c'est pas grave, je garde pour moi. On culpabilise de ce qui nous arrive parce qu'on ne comprend pas pourquoi ça nous arrive. J'en réfère au profil type de la victime. On est pris dans un conflit de loyauté, donc on se dit ça va passer, etc., etc.
Mais alors justement, je te prends un exemple. Imaginons quelqu'un qui n'a pas de DRH, qui n'a pas tous ses recours potentiels, avocat, supérieur hiérarchique, etc. Je sais pas, je te prends une scène. Tu te fais harceler de manière régulière par un pervers au bureau. Déposer plainte contre lui, ça marche ?
Oui, bien sûr, le cadre de la loi marche toujours.
Tu vois, finalement, aller déposer une main courante ou...
Oui, parfois il faut faire attention, mais est-ce que la police protège assez ?
Est-ce que par exemple, après, ce qui est compliqué, c'est que tu te dis, mais rien ne l'arrête au sens il peut pas s'arrêter avec ça,
non.
Tu vois ce que je veux dire?
Non, en fait, le vrai bon conseil qu'on donne...
Voilà, c'est de se propre auto-barricader.
C'est ça, c'est l'auto-protection. Et pour ça, il n'y a pas 50 000 options. Enfin, comme je disais, ne jamais rentrer dans son jeu. Et en fait, pour ça, c'est être toujours le plus littéral possible. Pas de double sens, pas d'ambiguïté, pas de sable mouvant sur lequel il va se faufiler instantanément. Dès qu'il y a une brèche, dès qu'il y a une vulnérabilité, il rentre dedans, instantanément.
Donc, en fait, le silence, parfois, peut aussi protéger.
Littéral, factuel, très factuel, très au premier sens du terme. Il ne faut pas chercher à être plus fort que lui, parce qu'en fait, on ne peut pas l'être. Par définition, il a une énorme violence en lui. Enfin, je te dis, il est très, très, très proche de la mort en permanence. Enfin, il est très dangereux, le vrai pervers.
Donc, il ne dissocie pas le bien du mal.
Non, okay. Non, ça n'existe pas. Mmh. Non. Mmh. Non, non, il est extrêmement dangereux. Donc, être le plus littéral possible, ne pas rentrer dans son jeu, se protéger pour qu'il n'y ait pas de brèche. En fait, c'est éviter... Ça.
De prêter le flanc, enfin de donner, j'arrive pas à trouver l'expression, mais de donner le change.
Exactement. Oui. Et attention à bien les repérer, enfin, c'est important aussi. Enfin, j'espère qu'on a donné des trucs à certains pour mieux les repérer et ne pas attendre d'eux qu'ils nous donnent quelque chose. Ça n'existe pas.
Est-ce que souvent ils refusent le cadre juridique?
Ah bah oui, c'est ce que je faisais, ils adorent la loi, ils adorent le contrat, ils adorent le contrat.
Non, mais est-ce que ça peut être quelqu'un qui maintient quelqu'un dans une situation illégale ou tu vois?
Ah mais ils vont chercher à faire ça au maximum. Ils adorent tout ce qui est contrat, etc., pas la loi, parce qu'ils se sentent supérieurs à la loi. Ça c'est Lacan même qui l'avait dit, il provoque et défie sans cesse la loi.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut être quelqu'un qui maintient une personne dans une situation irrégulière ou dans une situation illégale au sens où il n'y a pas de contrat. Donc ça peut être de l'esclavagisme moderne, ça peut être une situation non maritale, pas désirée par une partie, ça peut être un refus, je ne sais pas moi, d'imposer une sorte de cadre quelconque, légal ou professionnel, mais ok. Donc on le retient quand même, c'est très très important, c'est de rappeler cette capacité que toutes les personnes peuvent avoir finalement à s'auto-barricader, à prendre conscience des choses, mais aussi à se responsabiliser face à ce comportement.
Exactement.
Et ça, je pense que c'est ce qui est le plus important à retenir.
Et en fait, ce qui est très très dur, c'est pourquoi en fait on n'arrive pas à le faire.
De ne pas basculer dans le statut de victime en fait.
Oui, et en fait, c'est que très souvent, comme la victime, et je te dis, la victime, elle ne fait pas exprès d'être victime.
Non,
c'est
bien
un processus
bien sûr.
Inconscient. Comme elle est prise dans ce conflit de loyauté, elle va sans cesse espérer que ça change. C'est ça qu'on voit très souvent dans la victime, en fait, du pervers.
C'est ça.
Elle va tout le temps espérer, mais non, ça ira mieux demain, il m'a dit que X, que Y. Le pervers, il est vraiment manipulateur, enfin, il est extrêmement fin dans ce qu'il fait. Tu vois ?
Bien sûr.
Donc, c'est en fait avoir ce courage, cette honnêteté face à soi-même de se dire, je suis dans une situation face à un pervers, je ne peux rien, et accepter de, entre guillemets, perdre là-dessus, mais pour gagner sa liberté, son destin d'une certaine façon.
Et pas considérer
mais ça, c'est dur.
C'est très dur, parce que quand tu es en couple avec un pervers ou une pervers, tu as tendance à te dire que tu as une sorte d'abnégation, une sorte de capacité, de résilience, que tu fais tout pour ton couple.
Oui.
Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que la personne en face, elle, en général, elle se dit... Je vais tout faire pour que ça marche.
Oui.
Je vais faire en sorte de passer à côté de ce comportement pour le bien-être de notre famille ou le bien-être, l'équilibre de nos enfants, etc. Oui. Enfin, tu vois, c'est ça qui est terrible.
Oui.
C'est pour ça que c'est si dur de sortir de cette relation. La victime peut parfois être une personne très forte qui a une capacité d'abnégation, d'encaisser, en fait, d'avaler des couleuvres monumentales et se valoriser aussi d'une certaine manière comme ça en disant... je vais essayer d'affronter ça, sans se valoriser, mais en essayant de prouver que ça a de la valeur de faire tenir cette situation.
Exactement.
Or,
très souvent, la victime culpabilise, c'est un des traits caractéristiques de la victime. Et c'est extrêmement dur de quitter quelqu'un, de rejeter quelqu'un, parce que ce qu'on demande à la victime, c'est de rejeter le pervers, en fait, très, très clairement. Enfin, c'est extrêmement dur de rejeter quelqu'un pour quelqu'un qui a une propension à culpabiliser, que évidemment dont le manipulateur va abuser.
Bien sûr. Alors, je reviens juste parce que j'aime bien quand même reprendre les questions qu'on m'avait posées, mais pour ce lien, si tu veux, quand un enfant Et moi, oui. je reviens aux enfants. Oui. Mmh. C'est-à-dire que cet enfant qui est face à cela, qui va le sauver ?
Ça dépend. Ça va être son autre parent si son autre parent s'en rend compte et que son autre parent n'est pas pervers. Ça va être l'école. Ça va être lui-même. Tu as des enfants de pervers, comme je disais, qui deviennent pervers, donc qui sont finalement relativement...
Oui, qui ne s'en rendent jamais compte.
Oui, c'est ça. Et ça va être... Moi, je reçois énormément au cabinet des enfants de pervers. Enfin, très souvent, ça mène à des pathologies, mais ça mène aussi à une très, très grande sensibilité, à un rapport au monde qui peut être très intéressant. Enfin, c'est... Il ne faut surtout pas croire qu'on est condamné. Enfin, je le pense vraiment pas du tout, pour le coup. Mais c'est utiliser aussi cette faille, cette vulnérabilité qu'on porte en nous quand on devient adulte pour en faire quelque chose d'intéressant.
Bien sûr.
On peut en sortir.
Oui, on peut en sortir. Alors justement, c'est une pathologie dont on peut guérir. C'est-à-dire
non,
que...
les pervers, alors, non. Voilà. Quand on est enfant de pervers, on peut en sortir.
C'est ça.
Oui.
Mais en fait, le pervers par
non,
essence...
Non, il ne changera pas.
Voilà, c'est ça.
Non.
C'est qu'il y a souvent une question qui est revenue sur le fait de corriger son comportement avec le temps ou de guérir. Ben,
le vrai, non. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Daniel Zaguri, qui est le grand expert psychiatrique des psychopathes pervers. Non, le vrai ne changera pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en prison... Les très, très grands
ça
pervers...
Ça ne fait rien sur eux.
Ben, c'est pour ça qu'il y en a qui ont des peines de prison irréductibles, en fait. Parce qu'on sait... Que, je te parle des psychopathes, enfin. Mais comme je te dis, ils ne sont pas très loin, le psychopathe du pervers. On sait que quand ils sortiront, ils feront la même chose.
Oui, les tueurs en série...
Oui,
Ouais.
Faut pas espérer quoi que ce soit. Hein.
Donc, on est revenu sur le fait de devenir un pervers narcissique. Donc, ça peut être un traumatisme lié à l'éducation ou à son parcours familial. Se protéger du pervers, on a vu... écoute, je pense qu'on a abordé tous les sujets et voilà, l'absence de conscience bien entendu de ce qu'il engendre chez l'autre ça je pense qu'on l'a aussi abordé de manière assez poussée. Écoute Alix, c'était passionnant de t'écouter, je te remercie beaucoup, j'ai appris énormément de choses. Je laisse à tout un chacun de te contacter s'ils ont des besoins sur ce sujet. Parce que je suis certaine que tu pourras aider des gens. Voilà, merci Alix, je te dis à très vite pour un prochain épisode et voilà.
Merci beaucoup Estelle, merci à toutes, merci à tous et à bientôt.
À bientôt, bye bye.
Voilà les amis, c'est la fin de cette interview, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager l'épisode via les plateformes d'écoute comme Acast, Apple Podcasts, Spotify ou votre application de podcast préférée. Le partage et la notation du podcast sont super importantes pour moi, donc je compte sur vous pour mettre des étoiles et des commentaires là où c'est possible. Pour vos suggestions d'invités, n'hésitez pas, je suis joignable sur le compte Instagram du podcast Réel Podcast. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.